Radio G 101.5 FM.
Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre émission sportive de l'antenne, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Et vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. C'est une émission talk, tranquillement. Voilà, une première partie justement, on va parler de sport local. Et puis après, on ira sur l'international sur la deuxième demi-heure. Faustin n'est pas là avec nous pour parler notamment de basket, mais en tout cas on a Cédric qui est bel et bien présent. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, après 15 jours de repos on va dire.
Oui, c'est ça.
Ça a été, hein, parce que bon, entre ma semaine de marathon caritatif, voilà, ouais, qui a été physique, hein.
J'imagine.
On a été bien content du coup que le 14 février, tombé un mardi soir comme ça, parce que je te dis pas, derrière, ça a été deux jours en mode je dors plus que je ne sors, quoi.
Donc c'était compliqué. Ouais, c'est vrai, 14 février, bon, il y avait le match.
Ouais, il y avait le match.
Il y avait la Saint-Valentin, donc bon, évidemment. L'émission a été annulée, mais bon, on est de retour aujourd'hui, 21 février.
Oh, puis il y a eu quand même pas mal d'événements entre temps.
Ah oui, ah, bien sûr, oui, et on va revenir sur tout ça justement dans cette émission. Donc au programme, on va parler dans l'actualité locale du titre de l'Étoile Angers Basket. Et oui, ils ont remporté la Leaders Cup de Pro B. Évidemment, on parlera des autres équipes de basket du Maine-et-Loire. On parlera du SCO Handball. On parlera des Ducs d'Angers. Il y a pas mal d'actualités de ce point de vue-là. Et puis, on parlera aussi de football avec la Ligue des Champions ce soir. On parlera de judo, puisqu'on en a déjà parlé un peu il y a deux semaines. Et là, on va revenir un peu dessus. Et puis, sinon, on va aller du côté des États-Unis avec le Super Bowl que tu as suivi qu'à moitié, Cédric. Hein. Forcément, du coup, un peu fatigué.
Oui,
je sais que ça dure très longtemps, le Super Bowl, et qu'il faut tenir jusqu'à la fin. Voilà.
Mais en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que t'es quand même plus intéressant que certaines années.
Voilà.
Au niveau du jeu, en tout cas.
Et puis, voilà, évidemment, on parlera un petit peu du All-Star Game qui a pas été franchement convaincant cette année. Faustin, évidemment, il nous en parlera la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà. Et puis, on parlera un petit peu, pourquoi pas, de biathlon, de ski, sport d'hiver avec nos Français qui carburent. Et puis, d'ailleurs, justement, on passe un coucou à Faustin qui nous écoute peut-être et qui est justement, lui, du côté des Pyrénées, en train de dévaler les pistes de neige. Alors peut-être pas cette heure-là, mais en tout cas, voilà.
Ah, on sait pas, descente au flambeau, hein, qui sait.
Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà, il profite un peu des sports d'hiver et des vacances. On va donc commencer tout de suite. L'actualité qui fait la une du sport angevin, c'est bien entendu le sacre de l'EAB en Leaders Cup de Pro B. L'Étoile Angers Basket affrontait Boulazac dans la salle de Saint-Chamond pour tenter de décrocher son premier titre professionnel depuis la création du club en 2017. Dans le premier quart, les Angevins prennent le match par le bon bout en menant rapidement 19 à 14 après 10 minutes de jeu. Ils vont même creuser un peu plus l'écart avant le retour au vestiaire, puisqu'il mène 44-37 à la mi-temps. C'est dans le troisième quart-temps que Boulazac va craquer et qu'Angers va s'envoler vers la victoire, emmenée par Stéphane Gauthier, qui était en grande forme sur cette fin de match. Dans le dernier quart, les Angevins gèrent un petit peu leur fin de partie et assurent leur triomphe en finale de Leaders Cup. Johan Choupa fut élu homme du match, mais on peut aussi souligner les très bonnes performances de Michael Akoutché, de Florent Léopold et de Yuri Golitin, anciennement connu sous le nom de Yuri Morose, hein, on l'avait reçu dans Génération Sport. Voilà. Le collectif angevin s'est une nouvelle fois démarqué avec 5 joueurs à plus de 10 points et un collectif jeune qui s'impose avec beaucoup d'intensité, comme d'ailleurs le soulignait Ali Bouziane à la fin du match. Le technicien angevin avait fort à faire en début de saison en reprenant une équipe dans une forme exceptionnelle avec leur titre en National 1. Le coach a rappelé que peu de gens croyaient en ce club promu à l'entame de la saison, mais que ces joueurs ont réussi à réaliser quelque chose d'incroyable avec ce titre et vont s'autoriser d'ailleurs des playoffs, vous autorisez à rêver surtout dans les playoffs en fin d'année. Cédric, le AB, on les suit depuis assez longtemps dans Génération Sport. Ils ont été partenaires dès 2018 et même si on les reçoit moins cette année, ça reste une équipe évidemment qui nous tient à cœur et c'est ça fait plaisir de voir justement ce club aujourd'hui aller briller dans un championnat comme la Pro B.
Ouais, puis c'est surtout voilà, premier titre du club. Je sais pas sous l'ancienne appellation et quand datait le dernier titre, mais
ça devait
quand même dater.
Alors j'ai une autre info, c'est que l'ABC avait participé, donc ils étaient à l'époque donc en Pro B aussi. Ils avaient participé ils avaient participé à la Leaders Cup justement, et ils avaient été éliminés en 8e. Et là, du coup, l'EAB arrive à remporter Leaders Cup.
Donc, dans tous les cas, voilà, ils seront jamais les premiers pour.
Évidemment, à jamais les premiers.
Sous cette nouvelle forme. Mais, non, au vu de ce qu'on avait pu sentir aussi avec le début de saison, quand même, qui était pas si dégoûtant que ça, voilà, bah, ça prouve le sérieux du club depuis plusieurs années. Et puis bon, c'est surtout voilà la saison, on va dire maintenant, elle est quasiment finie puisque du coup la phase en play-off, la place elle est réservée,
elle est assurée. Mais en tout cas ouais, la saison régulière, parce que justement peut-être qu'au play-off ils peuvent tout miser là-dessus et aller chercher quelque chose de grandiose.
Mais c'est ça, mais ça peut permettre voilà peut-être de tester des nouveaux joueurs.
Ouais.
Qui sera en attente, donc les joueurs qui ont moins de temps de jeu justement, faire des rotations, proposer les joueurs vis-à-vis de justement de ces playoffs, et ça peut ouvrir justement des voies intéressantes, je trouve.
Ouais.
En tant que coach, voilà, t'as de quoi travailler, je pense, sereinement. Même si c'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'avoir une place qualificative comme ça.
Ouais.
Au vu de toute la saison, limite, tu te dis, bon, je joue pas.
Oui, c'est ça.
Je mise tout sur cette coupe-là. Je finis dernier de la saison régulière.
Ouais, tu peux.
Mais je joue les playoffs.
Non, mais en tout cas, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, justement, comme tu le dis, l'EAB, pour le coup, joue le coup et va réellement, ce club était en posture de disputer les playoffs avant même cette finale de Leaders Cup. On en parlait d'ailleurs avec Faustin sur les ambitions de l'EAB. Et c'est vrai que c'est un club qui aujourd'hui a clairement affiché la couleur rapidement avec une 8e place en saison régulière qui était potentiellement qualificative, avec des très bons résultats au début et avec aujourd'hui donc cette possibilité qu'il y avait de remporter la Leaders Cup et qui a été donc transformée. Mais ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce club briller. Je sais pas si t'es un expert à basket et si tu oserais te prononcer sur une fin de saison. Mais c'est vrai que ce serait quand même beau de voir peut-être faire quelque chose, enfin le AB faire quelque chose en play-off.
Bah en tout cas voilà, c'est, je suis loin d'être un expert comme tu dis, mais je pense qu'il y a exemple à prendre ce qu'a fait sur l'UFAB l'année dernière,
ouais.
Voilà, qui n'était pas forcément attendu dans ses play-offs, qui en a profité pour gratter un peu plus d'expérience, et là je pense que c'est peut-être justement le moment aussi d'aller chercher cette expérience supplémentaire.
Ouais,
si ça passe, voilà. Ouais. Vaut mieux peut-être encore stagner un petit peu, mais rester un peu régulier.
Parce que la Belgique Elite, c'est un autre niveau.
Voilà, c'est ça, c'est pire.
Parce qu'il y a encore pas mal de joueurs qui étaient en N1 l'année dernière, qui ont participé au titre en N1, qui sont aujourd'hui en Pro B. Alors, ce sont des joueurs qui, du coup, montrent que ce sont des joueurs de Pro B, mais peut-être que la Betclic Elite, ce serait un peu trop haut, peut-être.
Ça
impliquerait le club à potentiellement recruter beaucoup plus, à voir un peu ce qui va être possible de faire. Mais ça nous ferait peut-être potentiellement des beaux derbies.
On cracherait pas dessus, ça, c'est
des,
sûr.
Des derbies Cholet-Angers qui seraient assez magnifiques.
Mais dans un plan, on va dire, de construction sur la longueur, je pense que voilà, c'est d'aller chercher de l'expérience. Voilà, parce que bon, je pense, oui, effectivement, si ça monte, même en faisant un bon recrutement, ça serait compliqué quand même d'avoir des joueurs qui seraient vraiment tête d'affiche de l'équipe, qui pourraient l'emmener vraiment vers le haut pour rester quelques années. Ouais. Là, je pense qu'on partirait quand même peut-être plus sur un risque de redescendre direct,
oui, oui.
Et financièrement aussi, ça peut être compliqué aussi pour les clubs de faire le yo-yo, quoi.
Mais en tout cas, voilà, on va essayer de recevoir peut-être sur cette saison peut-être Johan Ratuville qui est devenu donc directeur sportif et qui a sûrement contribué justement de près ou de loin à ce succès de l'EAB. Donc déjà on leur passe le bonjour s'ils nous écoutent, et puis voilà, ils sont les bienvenus pour parler de l'EAB et de tout ce qui s'y passe évidemment cette saison. On va rester un peu dans le basket avec les joueuses de l'UFAB 49 qui sont au cœur d'un calendrier dantesque après la reprise suite à la trêve internationale. Jeudi, les Angevines n'ont rien pu faire en quart de finale de Coupe de France contre Basketland et se sont inclinées lourdement 84-65. Dimanche soir, C'est face à Bourges que les joueuses d'Aurélie Bonan étaient opposées. Les championnes de France faisaient office d'épouvantail, mais les Angevines ont réussi à surprendre leurs adversaires, en première mi-temps notamment. Alors qu'elles menaient 32-29 à la pause, les partenaires de Kekeli et Lenga se sont complètement écroulés dans le troisième quart-temps, le perdant notamment 28-13. Au final, Angers s'incline 75-65, il reste coincé dans les places pour les play-downs. Une nouvelle semaine décisive s'annonce pour le club avec l'Eurocoupe contre l'ASVEL jeudi, un nouveau match de LFB contre Saint-Amand dimanche, et surtout le prime de leur semaine, ce sera mardi prochain à 20h puisqu'elles seront dans Génération Sport. On n'a pas encore l'identité de la joueuse qui viendra, mais en tout cas voilà, on vous communiquera ça sur nos réseaux sociaux.
Et on sera à nouveau à la veille d'un match.
Non, justement, le retour sera dans deux semaines. Le retour sera dans deux semaines. Donc normalement, il y a pas de souci, elle devrait être là. À part si j'ai raté un match dans le calendrier. De son côté, Cholet Basket était lui aussi engagé en Leaders Cup, mais du côté de la Betclic Elite, les Choletais étaient opposés dès les quarts de finale au Mans, qu'ils avaient joué déjà au début du mois. À l'époque, le CB avait complètement failli à la Meilleraie et s'était incliné 103-83. Là encore, ce vendredi, les hommes de Laurent Villa se sont de nouveau fait piéger, et ce dès l'entame de match avec un premier carton perdu 28-12. Cholet ne parviendra pas à repasser devant et s'inclinera 84-77 en disant adieu à ses rêves de titre. Contrairement à leurs voisins angevins, les Maugeois sont d'ores et déjà en très bonne posture pour une qualif en play-off et pouvaient se permettre de passer à côté de la compétition. Le SCO d'Angers va tout droit en Ligue 2. C'était dans les tuyaux depuis un bout de temps maintenant. Mais la double confrontation contre Auxerre et Strasbourg, concurrents directs pour le maintien, pouvait peut-être permettre d'entretenir l'exploit d'un miracle, enfin voilà, l'exploit d'un miracle, c'est ce que j'ai écrit, l'espoir d'un miracle plutôt. Avant ça, le SCO jouait face aux voisins nantais en Coupe de France il y a deux semaines, et même s'ils ont mené pendant plus de 80 minutes, les coéquipiers de Sima, buteurs ce soir-là, ont craqué en fin de match et se sont fait sortir au tir au but par Nantes. Le dimanche suivant, les Angevins avaient donc l'opportunité de décrocher leur première victoire depuis septembre contre le 19e du championnat Auxerre et revenir surtout à deux points de leurs adversaires du jour. Là encore, les joueurs de Boisama sont les premiers à frapper avec le but de Ravelosson contre son camp au bout de 2 minutes de jeu. Et là encore, le SCO va voir son adversaire revenir avec un but sur pénalty de Ablin, le même Ablin qui avait même la balle de match au bout du pied dans le temps additionnel et qui manqua son pénalty. Un partout, on se dit, alors que ce pénalty raté est un signe du destin, à 6 jours d'affronter Strasbourg surtout. Et pourtant, les espoirs scoïstes vont s'évaporer à la Méno avec une première mi-temps catastrophique dans laquelle les Alsaciens vont marquer à 2 reprises. Nabil Bentaleb réduira la marque sur penalty, mais ça ne changera rien au résultat. Le SCO est désormais à 10 points du premier non relégable et voit le maintien s'éloigner peut-être définitivement. Cédric, est-ce que cette double confrontation face à l'adversaire direct qui aurait pu peut-être faire entrevoir l'espoir, est-ce que c'est fini, on n'en parle plus, fin de saison pour le SCO?
C'est de plus en plus compliqué.
Là, hein. Là, ça...
Enfin, si t'es pas capable de
battre des concurrents.
Parce que, Auxerre, quand on les joue, ils sont 19e, je crois, de mémoire.
Ils sont 19e.
Ouais.
Ils étaient sur, je crois, un truc comme 7 matchs sans victoire.
Ouais, c'est ça, donc
un truc comme ça. Et en plus, je l'ai pas noté, mais Auxerre a gagné ce week-end contre Lyon, ce qui du coup ne fait pas, on repère 3 points sur Auxerre, et voilà, en tout cas, parce que moi je me disais, bon, même si on est relégable, ce serait bien quand même de sauver les meubles entre guillemets, avec en essayant de gagner pour ne pas être dernier, et là bon bah là c'est complètement cuit.
Puis bon, enfin limite à Strasbourg c'est encore pire, je dirais, parce que on les a quand même joués en Coupe de France.
Ouais, et on les a éliminés.
Oui. Et pas forcément avec l'équipe titulaire. Donc,
C'est vrai.
Non, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros, gros problème au sein du club. Et là, pour une fois, souvent on dédouane un peu les entraîneurs là-dessus. Là, je pense que il y a un gros problème aussi au niveau du coach, quoi. Enfin,
oui, bah oui.
Tu peux pas te vanter que dans la presse, alors je sais plus si c'est au moment de la trêve qu'il y a eu vite fait là, ou si c'est après, où il a limite sorti. Non, mais ça y est, on va nous craindre.
Ah oui, après deux matchs nuls.
Voilà.
Ouais, ok. On va nous craindre. Non, voilà la preuve.
Je pense que n'importe quelle équipe, même de Ligue 2 qui jouerait en ce moment le SCO, plus envie de se marrer, tu vois.
Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est une équipe qui n'a pas le niveau pour la Ligue 1, il faut bien se le dire.
Donc,
j'ai sûrement déjà dit plein de fois cette année, mais Utunji et Blažić, c'est pas le niveau de la Ligue 1. Et sur chaque match, ils ont une faute, enfin, ils sont impliqués sur des buts encaissés, quoi. C'est complètement dingue.
Et puis, on s'est encore repris des cartons, donc.
Des quoi?
Des cartons rouges? Il y a encore des cartons rouges, voilà.
Ah ouais, pas de mémoire. Sur les deux matchs, c'était Ajaccio. Ajaccio, on a pris un rouge. C'est Doumbia qui avait pris un rouge.
Ouais, bah à Strasbourg, on en prend un, je crois.
Strasbourg. Je regarde ça, mais je crois pas. Mais je crois que c'est Ajaccio, il y a Doumbia qui prend un rouge. Non, mais ouais, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est une équipe qui est complètement à la rue. Non, il n'y a pas eu de carton rouge.
Contre Nantes, j'ai envie de dire.
Ouais, contre Nantes, c'est argent, quoi.
Ouais, mais le problème, c'est que c'est comme d'hab.
Ah bah oui, oui.
Bon, on n'est pas capable de jouer 90 minutes. Déjà, quand on joue 2 minutes.
Déjà, c'est bien.
C'est bien, mais voilà, non, c'est. Ah, en plus, surtout, j'ai envie de dire, comme c'est un derby, t'es censé tout cadenasser.
Et chez toi.
Mais
de France, en plus, il y a moyen de faire quelque chose, il était devant ton public.
Après, voilà, quand on voit la saison qui se fasse sortir en Coupe de France, j'ai envie de dire, c'était limite plus salvateur.
Ouais.
Parce que ça fait moins de matchs. Techniquement, t'es censé plus travailler. Mais même, t'as vu les plannings d'entraînement?
Non, j'ai pas regardé.
Moi, je trouve ça vachement léger. C'est genre un entraînement le matin, vite fait, vers 10h. Tu vas en avoir un autre dans la semaine qui va être placé genre à 16h. Après, tu vas avoir un qui revient le matin. Enfin, t'as l'impression que même à l'entraînement,
ils bossent pas, quoi.
Ils ont pas de temps pour bosser, ou je sais pas. Enfin, c'est.
Non, mais. Moi, ce qui est vraiment. Enfin, avec le SCO, c'est que. Et c'est pour ça, souvent, voilà, je posais les mêmes questions chaque semaine en mode est-ce qu'on va en Ligue 2? Est-ce que c'est rien compliqué? Est-ce qu'il faut virer Baticle? Et en fait, pourquoi je fais un souvent là-dessus? Parce qu'il y a souvent des signes d'espoir. Et notamment le match contre Strasbourg est vraiment évocateur par rapport à ça, parce que la première mi-temps, elle est catastrophique. Le SCO touche un seul ballon dans la surface adverse et prend deux buts sur des erreurs catastrophiques. Et derrière, la deuxième mi-temps, le SCO, un petit peu, ils vont chercher un penalty, un but. Il y a une grosse occasion d'Ibrahim Magnan. En fin de match, voilà, il y a quelques occasions. Et en fait, tu sens que je dis pas qu'ils le peuvent et qu'ils ne le font pas, mais en fait, il y a cet espoir qu'on a où se dit, voilà, on joue Lorient, on fait nul, c'est peut-être possible. La double confrontation contre Ajaccio, oui, c'était quand même serré, on méritait pas de perdre. Il y a des matchs hyper bien, le PSG, on perd que 2-0, on a failli égaliser. Et des fois, contre Brest, tu prends 4-0, tu vois pas le jour. Là, Strasbourg, tu perds 2-1 alors que c'est un concurrent direct. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu rageant avec le SCO, c'est qu'on n'a pas un sentiment d'une équipe qui est complètement à la rue, mais qui l'est aussi quand même. Tu vois ce que je veux dire? Fois, t'as des signes d'espoir, t'as envie d'y croire quand t'es danger, quand t'es supporter du SCO, t'as envie d'y croire. Tu te dis ah ouais, Bentaleb il est incroyable, Oanyan c'est intéressant, Goulam aussi c'est des bonnes recrues. Et en fait, tu regardes les matchs et puis tu as envie de supporter notre équipe, quoi. C'est dingue.
À côté de ça, ils sont obligés de te faire de la propagande à gogo pour essayer de ramener du monde au stade.
Ah c'est même pas de la propagande. Ils vont payer pour qu'on vienne.
Moi j'appelle ça de la propagande. Au point où c'est rendu, c'est faut venir parce que faut les supporter pour que ça reparte et tout.
Les tarifs. On parlait des tarifs en début de saison. On disait ouais, c'est très cher. maintenant que déjà il y a plus personne dans le stade et qu'en plus ça devient compliqué pour la Ligue 1. Les places sont à 10€ pour les moins chers ou des trucs comme ça quoi. Donc il y a pas de bientôt on va finir des places à 5€ où on va donner de l'argent pour qu'on vienne dans le stade. Mais bref, c'est une situation compliquée, on le sait. Peut-être qu'on suive on fera moins de débats comme ça sur la saison du SCO à part s'il y a des bonnes nouvelles. Mais si ça continue de couler, je pense pas qu'il y aura d'intérêt à parler de
résultats. Ça va être compliqué.
On parlera des résultats, bien sûr, mais on parlera pas de.
On peut plus se permettre d'avoir des matchs où on sait qu'on peut griller un joker.
Ouais, c'est ça.
Même
ouais.
Contre les gros, va falloir
la semaine prochaine, c'est Lyon. Lyon qui va être revanchard après sa défaite à Auxerre. Et qui a mis 5-0 à Angers à l'aller. Donc ça va être compliqué. Bref, on va changer du tout au tout maintenant avec Angers. Angers. Oui, les Ducs d'Angers, j'étais un peu vague sur ce coup-là. Les Ducs d'Angers qui reprenaient le championnat la semaine dernière après une trêve internationale et reprenaient par un gros match contre Rouen à l'Ice Park. Il y a eu beaucoup de buts dans ce match. Il y a eu 6-5 pour Rouen après prolongation, donc une vraie belle partie de hockey à l'Ice Park. Et donc voilà, les Angers qui perdent encore une fois contre Rouen cette année. Ensuite, ils avaient l'occasion de se venger entre guillemets 3 jours plus tard contre Briançon avec donc une victoire 2-1 contre Briançon. Et puis donc 2 jours plus tard, c'était dimanche, il y avait un bel événement puisque c'était les 40 ans du club. Il y avait un match un peu All-Star avec toutes les légendes du club. Il y a eu, je crois, un maillot qui a été retiré par rapport à un joueur qui était historique du club. Et surtout, il y a eu la victoire des Ducs d'Angers contre les Scorpions de Mulhouse 6-1. Donc voilà, ça a dû être une belle ambiance à l'Ice Park. Et une autre info extra sportive qui concerne donc les Ducs d'Angers. Et oui, on croit que tout va bien dans le club.
Non, qui les concerne pas.
Bah qu'il est enfin oui. Bon bref, je vais lire l'info. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on savait déjà un peu qu'il y avait des gens qui manifestaient. Je crois que c'était, je sais plus à quelle époque, mais c'était il y avait des manifestations l'année dernière.
En début, juste avant le début de la saison là, au moment où, enfin on va dire fin août, début septembre, là où souvent les budgets sont alloués au niveau des clubs sportifs
parce que il y avait eu des contestations notamment par rapport à Mickaël Juret, président des Ducs d'Angers, qui a des accusations de harcèlement sexuel notamment, et donc ce week-end c'est Jean-Marc Verchère, nouveau maire d'Angers, pour ceux qui ne savent pas, qui remplace Christophe Béchu parti au gouvernement. Jean-Marc Verchère, donc maire d'Angers, donc c'est quand même quelqu'un. Il a condamné, en tout cas la ville d'Angers condamne fermement les violences sexistes et sexuelles, et elle reste aux côtés donc du club, de ses joueurs et des passionnés de sport de glace. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il a vraiment pris connaissance, le maire de la ville, de la condamnation définitive de la société de monsieur Mickaël Juret, la société Prime Habitat. Alors il faut savoir donc que c'est bien sa société qui a été condamnée officiellement et non pas sa personne, Mickaël Juret. Et donc forcément, ce qu'il a dit, c'est que cette condamnation, elle rejaillit, immanquablement sur l'homme qui est aussi le président des Ducs d'Angers, monsieur Mickaël Juret, et nous n'en doutons pas, un homme de décision, nous espérons qu'il prendra dans les jours à venir celle qui préservera l'intérêt du club, des joueurs et des Angevins. Voilà, fin de citation par rapport à la déclaration officielle de la majorité municipale angevine. C'est vrai que c'est quand même assez particulier quand même ce cas-là. Qu'est-ce que tu en dis, toi?
Il a la mémoire très sélective, ce maire, j'ai envie de dire.
Oui, c'est vrai que là, je viens d'y penser. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait ce genre de communiqué sur Saïd Chaban. Alors, pour sa défense, il n'était pas encore là, mais c'est vrai.
Pour sa défense, quand l'affaire qui a été évoquée là, il n'était pas non plus encore maire.
Là, je pense qu'il réagit à la condamnation.
Mais... Non, encore que voilà. Et encore, techniquement, c'est même pas son boulot. Je veux dire, c'est pas la ville d'Angers qui est concernée.
Ouais. Ah bah il donne son avis quoi.
Oui, mais voilà, enfin, de sa fonction, il est censé avoir des retenues vis-à-vis de ses interventions, voilà, ce genre de choses. Alors, ok, le comme tous les sports dans l'agglomération angevine reçoit des aides de la mairie. Encore qu'il intervienne dans ce cas-là vis-à-vis des ducs, ok. Mais là, ah oui, c'est le président des ducs. Sauf
en gros, si on lit entre les lignes, il a clairement appelé à sa démission.
Oui, il est en train de dire oui, mais ça fait des vagues, ça fait de la mauvaise pub aux ducs.
Ça tâche.
Pour l'instant, l'image des ducs, elle est pas plus abîmée que ça, j'ai envie de dire.
Justement, peut-être qu'ils prennent le taureau par les cornes.
C'est des choses qu'ils savent, qui ça en parle hein, à la SPAR comme partout. Hein, je veux dire, ça, c'est pas. Il n'y a pas, voilà, tous, ils ont les yeux rivés vers le hockey et puis l'extra-sportif, on va dire. Voilà, non. Mais, voilà, enfin, s'ils commencent à vouloir faire du cas par cas.
Dans ce cas-là.
On parle du score.
On parle du score.
Il y a peut-être d'autres cas moins médiatiques, mais qui sont identiques dans d'autres clubs en juin. Enfin, voilà, on n'a pas toute la liste, puis on n'est pas là pour tous les citer, mais voilà. Qu'il y ait un communiqué en mode oui, on condamne. Ok, effectivement, c'est aussi c'est dans clair. L'émission de la mairie de mettre en avant un peu, voilà, faire de la prévention là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on va dire s'attaquer directement à la personne, bah non, enfin, dans ces cas-là, on n'est pas loin un peu du propos diffamatoire. Enfin, là, pour l'instant, c'est l'entreprise qui a été jugée. Je pense que ça va aller sûrement en appel ou voilà. Là, ça sera peut-être revalorisé. Et à ce moment-là, oui, peut-être, on pourra se poser la question. Et encore, on est qui pour juger. Mais en tout cas, au sein du club, oui, ils pourront peut-être se dire est-ce qu'on veut continuer ou pas avec ce genre de soucis, quoi.
Ouais, c'est une question évidemment complexe, mais en tout cas, évidemment. Pareil, nous aussi, on condamne ces violences sexistes et sexuelles. Mais en tout cas, voilà, c'était important de le dire par rapport à ça, parce que ça pourra avoir peut-être des répercussions sur la vie des ducs d'Angers, que ce soit en cas de démission du président, qui, je pense, n'a pas envie de démissionner.
En tout cas, pas.
Et pas potentiellement sur des allocations, enfin comment dire,
des subventions,
des subventions municipales de la part d'Angers qui peut-être
ce sera à voir.
Bah honnêtement ça part mal en tout cas.
Oui, mais après voilà, c'est
que si il fait rien, je pense que voilà. Après
pareil, si jamais il y avait des baisses d'aide, faudra qu'aussi qu'elles soient justifiées.
Oui. Voilà. Donc, en tout cas, voilà pour ce qu'on vous pouvait dire pour les Ducs d'Angers. On va avancer hein, puisque il est déjà 20h32. On va terminer donc l'actu local avec le SCO Handball qui a connu sa deuxième défaite de la saison seulement sur le terrain de l'élite valdoise. Après avoir lutté pendant 15 minutes, les Angevins ont craqué en fin de première mi-temps et ne parviendront pas à revenir dans la partie en deuxième période. Score final donc 32-26. Pas d'incidence au classement. Les joueurs d'Issam Tej sont toujours solides leaders avec 5 points d'avance sur Annecy. Le prochain match se jouera à domicile pour le SCO Handball dans 3 semaines, le 11 mars à 18h30 à la salle du Hara. Et ce sera justement contre son dauphin Annecy. Donc vrai choc à suivre dans 3 semaines.
Il reste combien de matchs avant la fin de la saison?
9 journées. Il reste 9 journées et ils ont donc 5 points d'avance. C'est en gros... de mémoire, c'est deux victoires et un nul d'avance sur Annecy.
Là, c'est pas un gros, une grosse avance en fait au final.
Bah, ça reste quand même pas mal. Hein. Je vais pas te mentir, ça reste pas mal. Après, c'est plus au niveau du fait qu'ils ont battu tout le monde cette année et qu'ils ont que 2 défaites. Ça peut revenir, certes, mais en tout cas pour la première place, normalement ça, en tout cas pour la montée, ça pourrait le faire. Donc voilà par rapport à ça. C'est vrai que le SCO Handball est une équipe particulièrement en forme cette année. Et donc voilà, c'est une deuxième défaite dans cette saison, donc c'est pas ça si
fait,
inquiétant.
Disons que ça fait plaisir au vu des deux dernières saisons bien difficiles qu'ils ont eues.
Tu as raison. On va passer maintenant à la pause musicale. On va s'écouter une chanteuse qui a performé justement au Super Bowl il y a un peu plus d'une semaine. On va s'écouter Umbrella de Rihanna. Et on se retrouve juste après. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath I must stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my. C'était Umbrella de Rihanna. Umbrella qui veut dire parapluie, je crois, c'est ça?
Ouais.
Exactement. Excuse-moi, Cédric.
C'est le parapluie.
Parapluie, voilà. Elle a fait une musique sur un parapluie. En tout cas, très, très, très belle musique.
Ah, écoute, elle cherchait son parapluie, c'est pour ça.
Donc, ça dit, je vais faire une chanson. Bref, revenons vers le sport. On va faire justement une petite transition entre l'actu locale et l'actu internationale avec une actu internationale qui se passe à Angers. L'équipe de France féminine de football dispute depuis quelques jours le tournoi de France qui est organisé cette année à Laval au stade Francis Lebasserre et à Angers à Raymond Coppa. Après une première victoire 1-0 contre le Danemark en Mayenne, les Françaises ont étrié 5-0 l'Uruguay dans l'antre du SCO et elles remettent ça à Coppa dans quelques minutes à 21h10. Cette fois face à la Norvège d'Ada Egerberg, la Ballon d'Or 2019. Mais ce n'est pas tout pour la ville d'Angers qui organise aussi un match d'éliminatoire à la Coupe du Monde de basket masculin 2023 à l'Arena Loire de Trélazé. L'équipe de France, en effet, défiera dimanche prochain à 18h la Lituanie pour tenter d'assurer sa place dans le Mondial en Asie en août prochain. Et je crois qu'il y aura un certain Victor Wembanyama qui sera dans les parages. Donc Faustin, si tu nous écoutes, c'est peut-être l'occasion pour toi d'aller le voir pour la première fois en vrai. En tout cas, on va enchaîner tout de suite avec le football et les résultats de la Ligue des Champions qui va d'ailleurs reprendre ce soir avec de belles affiches. La semaine dernière, le PSG a perdu 1-0 à domicile contre le Bayern. On va en reparler juste après. Milan s'est imposé contre Tottenham 1-0 et même score pour le Borussia Dortmund contre Chelsea. Enfin, le Benfica a pris le dessus sur Bruges 2-0. Ce soir, à 21h, deux belles affiches avec Liverpool qui reçoit le Real Madrid pour un remake de la finale de l'année dernière et un prometteur Francfort-Naples avec deux équipes en forme cette saison. Demain, l'Inter Milan accueille Porto et Manchester City se déplace à Leipzig. Cédric, on va revenir sur ce match entre le PSG et le Bayern, en tout cas sur la situation du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as vu le match?
Oui.
Déjà, qu'en as-tu pensé? Et puis, qu'est-ce que tu penses du PSG sur cette partie?
Deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire, dans ce match-là. Après, Galtier, voilà, a fait avec ce qu'il pouvait, hein, quand même pas mal de blessés. On savait qu'Mbappé, c'était pas sûr. Moi, je partais plus sur quand même le côté un peu intox et on, quoi qu'il soit, si c'est effectivement pas si grave, ils tenteront un coup. C'est ce qui a été fait. Première mi-temps, bon, il y a une, alors c'est une blessure, je crois, avec un premier remplacement qui, voilà, bah, tactiquement fait un peu mal, je pense, hein, ça se voit. Les jeunes, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, hein, mais le problème, c'est, bah, tu prends le Neymar quand il est pas décidé.
Ouais.
En tout cas, qui donne l'impression de pas être décidé. Bah, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai vu un Neymar qui retombe dans ses travers et je pars avec la balle et puis, je tente, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, bah, c'est pas grave, je vais retenter derrière et puis je continue, je m'entête. Messi, bon, souvent Messi, contre le Bayern, c'est toujours compliqué, hein, de toute façon.
Puis même, en ce moment, il est pas énorme.
Ouais, mais voilà. Et puis, bah, après, ouais, on a, voilà, cette entrée, hein, de Kylian Mbappé, voilà, qui change tout, hein, clairement. On peut parler de la VAR.
Ouais.
Un peu exagéré, je dirais.
Ah ouais?
Ouais.
Bah le,
la première VAR, on va dire, sur le premier hors-jeu, oui, il n'y a rien à dire. Il est clair, il est net. Le deuxième.
Bah, il y a hors-jeu.
Il y a hors-jeu, mais jamais personne ne le voit s'il n'y a pas d'aide. Et même avec l'aide.
Bah oui, mais justement, c'est
même avec l'aide, ça a été montré que selon que tu te positionnes, le pied est à l'identique.
Oui, mais du coup, la VAR permet de voir.
Ouais, mais bon, pour quelques millimètres comme ça, il y a moyen de réfléchir quand même. Je trouve que, enfin, c'est impossible que le joueur, quand il est lancé, il va pas s'en rendre compte. Il y a personne qui pourra s'en rendre compte. Donc, qu'on utilise la VAR pour définir ça, effectivement, il y avait bien hors-jeu, ça, il y a pas de souci, on peut pas le contester. Mais dans l'esprit du jeu, il y a peut-être des petites choses à voir.
Ouais. Après, c'est vrai que justement, c'est un sujet intéressant, mais souvent, du coup, si tu mets 30 centimètres de, par exemple, 30 centimètres, je dis ça comme ça, hein, mais de comment dire,
de marge,
de clémence, de marge, voilà. En fait, si c'était à 31 centimètres, c'est pareil. En fait, tu vas dire, ah, mais du coup, il reste plus qu'un centimètre. Donc, je pense que c'est, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, bref, pour revenir au match, c'est vrai que le PSG a montré un bien triste visage avec sans Mbappé, voilà, une équipe un peu apathique qui a surtout attendu le Bayern en défendant, en faisant le dos rond et en attendant que Donnarumma fasse les arrêts et que peut-être en contre Messi ou Neymar fasse une différence. Et puis surtout, moi je trouve que ça va avec l'ambiance autour du PSG en ce moment et puis surtout la qualité de jeu de cette équipe depuis un certain moment, les défaites à Rennes, à Lens qui ont pas du tout rassuré, là ce week-end contre Lille c'était quand même très compliqué et ils ont dû s'en sortir vraiment à l'arrache et puis donc voilà, le Bayern ça perd encore, donc voilà, je trouve que c'est quand même assez, et puis il y a les défaites au Vélodrome contre Marseille, donc ça enchaîne et aujourd'hui on est face à une équipe qui a très peu de marge dans le recrutement et qui aujourd'hui n'a pas l'effectif nécessaire notamment au niveau de son banc, pour aller chercher la Ligue des Champions et notamment battre le Bayern. Moi, ce que je trouve complètement dingue, c'est que aujourd'hui au PSG, tu as 4 attaquants dans l'effectif. Alors que déjà tu joues avec 3 attaquants. Donc c'est complètement dingue de se dire que t'as vraiment 3 stars et t'as un remplaçant qui est déjà pas à son aise et qui tiquait et t'as personne d'autre. Alors je sais qu'il y a eu l'imbroglio avec Ziyech et que bon, c'est pas leur faute, mais normalement il devrait y en avoir beaucoup plus. Parce qu'on parle de Chelsea avec ses 15 attaquants, je préfère avoir 15 attaquants et en avoir trop et pas savoir lequel mettre plutôt qu'en avoir 3. Et s'il y en a un qui se blesse, il y en a un qui prend un rouge ou un truc comme ça, tu te retrouves avec Ekitike. Tu mets Zaïre Emery à 16 ans, tu vas le mettre milieu droit alors qu'il n'a jamais joué à ce poste. Tu vas mettre Soler en 10 ou Vitinha en 10. Et tu te retrouves en fait avec une équipe qui est pas belle, et l'équipe qui est titulaire contre le Bayern, elle est pas belle. Elle sera peut-être mieux effectivement contre au retour, parce qu'il y aura Mbappé, Neymar, on sait pas trop s'il serait apparemment c'est mort, et puis il y en a qui c'est pas mort, mais donc on verra.
Mais c'est mort pour Pacheco, vu comment a tourné la cheville,
mais... ouais, et puis surtout on sait qu'il y a un délicatesse avec sa cheville. Mais déjà la Classico c'est mort pour Neymar, donc voilà, je pense que ça va être compliqué. Le PSG qui a encore une fois une vraie crise, et toi je crois que t'aimes plutôt bien ce que produit Galtier. Moi je serais plutôt de l'avis contraire, mais
je pense qu'il y a le fait quand même, c'est que il faut pas oublier, c'est qu'il a peut-être un des effectifs les plus rincés à cause de la Coupe du Monde aussi.
Oui. Et mais ça, après tout le monde joue la Coupe du Monde. Elle a joué la Coupe du Monde aussi.
Oui, mais potentiellement, ils ont moins de joueurs.
Le PSG a moins de joueurs.
Non, le Bayern qui a été.
Ouais, il y a Mané qui est blessé, qui n'était pas là. Il y a Choupo-Moting qui est allé. Alors, ce qu'on pourrait dire, effectivement, c'est qu'il y a pas mal de joueurs, notamment.
Et tu regardes tous ceux.
Les Allemands, ils sont sortis en poule. Choupo-Moting, il est sorti en poule avec le Cameroun. Mais bon, après, t'as Upamecano, Hernandez et Pavard qui ont été en finale.
Tous ceux là qui sont en train de se péter, ouais. Tu regardes, c'est tous ceux qu'on joue en Coupe du Monde.
Ouais, oui, c'est vrai.
Ça y joue aussi hein, là-dessus. Donc,
mais ouais,
c'est pour ça quand en conférence ça a agacé Galtier, le fait voilà qu'on lui dise ouais, quand vous voyez cette équipe là, ça vous fait quoi? Vous trouvez que le jeu est hyper intéressant? Sa réponse, c'était une réponse agressive. Non,
oui,
ça ne l'amusait pas et ça ne le satisfait pas.
Oui, c'est plus il y a plusieurs choses. Moi, je trouve que les problèmes, ils sont partout, à toute échelle. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui ne sont pas motivés à l'idée de jouer. On ne donnera pas les noms, mais on les connaît. Il y a le coach qui, selon moi, est peut-être un peu trop frileux dans ses idées et qui, aujourd'hui, ne déploie pas un jeu qui est vraiment attrayant et qui, en tout cas, permet au PSG d'être là où il veut être. On a un directeur sportif, Luis Campos, qui a raté ses deux mercatos.
Le problème, c'est que Campos, en plus, il a le cul entre deux sièges. Hein,
Parce qu'il est du côté de Galtier.
Oui, et puis
il veut garder son poste.
Oui, et puis il a aussi encore des liens avec d'autres clubs.
Il est aussi, Celta Vigo.
Celta Vigo, voilà. C'est un peu compliqué. Moi,
et aujourd'hui, on n'entend pas non plus le président parisien, Nasser Al-Khelaifi. On ne voit plus dans les médias.
En soi, c'est pas si dérangeant.
Mais quand ton club est en crise, t'as besoin d'avoir ton président qui vient parler, qui vient faire l'union sacrée, qui vient critiquer s'il y a besoin. Et là, aujourd'hui, on ne voit pas depuis une saison.
Est-ce qu'il y a réellement une crise? Parce que ça, tu regardes, c'est beaucoup.
Ah ouais, mais si tu sors en 8e pour le PSG, c'est encore une fois un échec.
Ça sera un échec, mais c'est pas forcément signe non plus de crise en interne et tout.
Faut pas oublier que sportif, c'est quand même aussi quelque chose d'important pour le PSG.
Oui, mais je te dis, avec cette année qui est compliquée d'un point de vue calendrier, en soi, si tu te fais sortir en 8e, c'est peut-être moins grave qu'une année où t'as pas de Coupe du Monde, où t'as tes joueurs qui sont vraiment frais à 100%, où t'as pu faire ton mercato correct et tout. Ouais. Donc, parce que voilà, si on regarde, il y a d'autres clubs qui sont dans la même panade et... On leur laisse le bénéfice du doute, hein, et on n'accuse pas le directeur sportif ou l'entraîneur. Donc c'est pour ça que, et puis tu regardes, c'est à la même époque, tous les ans, par les mêmes journalistes, c'est toujours le même truc. Ah ouais, mais non, il y a un problème. L'entraîneur, il est pas capable. Bah, qu'ils aillent, qu'ils passent leur diplôme et puis qu'ils aillent, qu'ils aillent un peu entraîner, puis on verra. Mais bah voilà, vis-à-vis du PSG, un peu marre aussi d'entendre, oui, bah faut mettre Zidane.
Ouais.
Peut-être laisser le temps à Galtier aussi de faire quelque chose. Je veux dire, enfin, tu changes d'entraîneur. C'est sur au moins un ou deux ans que tu peux juger et pas en voilà en une saison qui est même pas finie.
Ouais. Ok, très bien. En tout cas, on va clôturer rapidement pour ça, pour le PSG. À noter au niveau de du match de ce soir entre Liverpool et Real, c'est du classique hein, des deux côtés des équipes. On a une attaque notamment du côté de Liverpool, Salah, Gakpo et Núñez, et puis pour le Real, on aura notamment au milieu de terrain Modric, Camavinga et Valverde, et une attaque Vinicius, Benzema, Rodrigo. On va enchaîner tout de suite, on va parler un peu de judo maintenant. Il y a deux semaines, on évoquait le grand slam de Paris, en revenant sur le tournoi de Teddy Riner notamment. Mais un événement qui s'y est produit nous avait un petit peu échappé. Clarisse Agbenyenou, championne olympique à Tokyo, n'avait pas pu bénéficier du soutien d'un entraîneur de la fédération. La raison, la judokate a subi une sanction infligée par la Fédé car elle ne portait pas le bon kimono, ou du moins pas le bon sponsor. La Française arborait une tenue Mizuno, alors que la Fédération Française de Judo est désormais sous contrat avec Adidas depuis janvier 2023. À cause d'un problème de communication, selon l'athlète, elle n'était pas au courant de ce changement de règle et trouvait donc son jugement injuste. D'autant plus que cette règle ne s'appliquait visiblement pas à Teddy Riner, la star de l'équipe de France de judo. Une injustice qu'elle a dénoncée à plusieurs reprises dans les médias ces derniers jours. Et donc voilà, ça fait une polémique au niveau d'une autre fédération de judo. Cédric, qu'est-ce que tu penses justement de cette polémique ? Est-ce que on n'est pas à peine d'en faire tout un foin ? Est-ce que tu trouves ça un petit peu pas normal que certains dépassent droit et pas d'autres ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Ça devait être la révolution quand ça a changé à la tête de la fédération. Ça s'est bien passé, on va dire, les débuts, il y a des choses encourageantes. Et puis bah derrière, ça repart dans les travers. Parce que au-delà de cette histoire de sponsor. Équipe de France ou sponsor individuel. Il y a aussi d'autres soucis de statut pour les athlètes judokas et judokas de l'équipe de France qui normalement sont censés avoir aussi des contrats spécifiques avec la Fédé qui apparemment n'auraient pas été renouvelés. Donc ça plus là. Le cas Teddy Riner, voilà. Alors, c'est facile de dire ouais. Pour leur défense, ils peuvent dire oui, mais c'est pas nous qui l'avons accordé, c'était l'ancienne Fédé. Je pense que ça devrait être revu. Soit ils portent tous le même kimono, l'histoire est finie, basta. Soit, si un a le droit d'avoir son propre équipementier, tout le monde a le droit d'avoir le sien.
Oui. Et puis, c'est ça que je trouve un peu dérangeant, c'est de sanctionner comme ça, quelques heures avant le truc.
Quand on lit ces genres, non, mais vous savez, on a confiance en elle. Hein. Elle va pas le faire. Mais quand tu sais que t'es dans ton droit, parce que techniquement elle était dans son droit, vu que c'est pas marqué clairement dans le règlement, vu qu'elle a rien signé, elle était en droit de dire non, moi je prends mon propre truc. Il y a Teddy qui le fait, pourquoi pas moi ? C'est quoi la différence ? On a le même statut, on est athlète de l'équipe de France.
Ouais, c'est une polémique de plus dans une fédération française de sport, comme il y en a énormément.
Et puis bon, je pense que quelque part, c'est aussi la tête d'affiche du judo actuellement.
Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça fait du bruit.
Qui se met en avant. Apparemment, elle est peut-être pas la seule aussi
à râler.
Pas forcément pour cette histoire de kimono, mais plus pour, on va dire, les à côté, parce que apparemment, au-delà de ça, il y a peut-être des choses encore plus embêtante, on va dire, niveau de la Fédé. Pour l'instant, c'est pas sorti, ou en tout cas, ça reste en interne. Parce que bon, je pense pas que c'est que une histoire de kimono qui fait que elle dit, non, mais moi, je veux mon propre sponsor. Enfin, il y a, je pense, beaucoup plus d'enjeux que ça. Et on pensait que c'était un sport qui était un peu épargné par ce genre de choses. Et ça, c'est bien, ça commence à rattraper. On parlait de l'autre jour du basket, et voilà, qui commençait à avoir des polémiques bizarres aussi. Ouais. Par rapport à des cas de racisme, bah là, voilà, on commence à avoir des cas pour des histoires de pognon
dans le judo.
Dans le judo.
On va enchaîner tout de suite parce qu'il est 20h54. On va terminer avec trois petites infos. L'un des événements sportifs de les plus visionnés dans le monde s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi avec le 57e Super Bowl de l'histoire opposant les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Au State Farm Stadium, ce sont les Chiefs qui ont remporté 38-35, le troisième Super Bowl de leur histoire.
Toute fin du match.
C'était très serré. Rapidement, c'est vrai, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ton avis sur le match, c'était plus sympa?
De ce que j'en ai vu, ouais, notamment un touchdown des Eagles avec une passe magistrale. Ça traverse quasiment une bonne partie du terrain avec une putain de réception. Voilà, mais après, match serré, match du coup intéressant.
Ouais. Donc voilà pour Super Bowl. Et puis côté NBA, les joueurs All-Star du championnat ne nous ont pas livré un grand match des étoiles lors du All-Star Game de cette année. Faustin nous en parlera sûrement la semaine prochaine, mais le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous à Salt Lake City malgré le succès de la Team Giannis 184-175 et le record de points pour un joueur du All-Star Game avec les 55 points de Jason Tatum. Et puis dernière info, côté biathlon, le biathlon français se porte très bien avec le succès inattendu et retentissant des biathlètes français en relais masculin. Voilà, qu'ils ont battu les Norvégiens qui étaient hyper hyper favoris et qui avaient sorti la Dream Team. Et voilà, à domicile, non pas à domicile justement, c'est en Allemagne, les Français l'ont emporté et ont décroché la médaille d'or. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour l'actualité internationale. C'est vrai qu'on va se retrouver donc la semaine prochaine, tu seras présent.
Normalement, oui.
Normalement, pas de soucis. Faustin sera normalement là également. Et puis voilà, on vous retrouvera également avec une joueuse de l'UFAB. On vous redit tout ça sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre justement sur Facebook, Instagram et Twitter. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Génération Sport.
Thank you.